Donc là, vous avez une photographie de Palgrave en 1861, en costume bédouin. Il s'était déguisé comme ça pour rendre visite à Napoléon III, pour montrer qu'on pouvait le prendre pour un indigène. Vous savez, dans ma jeunesse, on disait dans tout explorateur, il y a un Pleyel qui sommeille, parce qu'à l'époque, il y avait les conférences connaissances du monde à la salle Pleyel. Dans le cas précis, quand vous revenez de votre voyage en Orient en costume bédouin, vous faites d'abord vos conférences à la Royal Geographic Society. Et donc, ce que fait Palgrave, puis il s'installe en Allemagne en attendant que ses supérieurs ecclésiastiques l'envoient en Haute-Égypte ou en Arabie. Et puis, il rompt avec l'ordre des Jésuites et publie son livre. La Prusse lui propose de prendre le consulat de Prusse à Bagdad, mais les Britanniques préfèrent le conserver et le font entrer dans le corps consulaire britannique. Il est donc envoyé successivement en Abyssinie, mais ne dépassera pas l'Égypte, puis en Géorgie russe, puis à Trébizonde sur la mer Noire ottomane, aux Antilles hollandaises, aux Philippines espagnoles, en Thaïlande. Et il mourra finalement en Uruguay le 30 septembre 1800. 88. Donc, vous voyez, ces aventuriers comme Burton ont fait le tour du monde, parce que Burton a fait des explorations en Amérique du Sud aussi. Se considérant comme un spécialiste de la question d'Orient, il a aussi publié un certain nombre d'articles sur ce sujet. Après tout, il a séjourné en Inde, en Syrie, en Arabie et en Égypte, dans le Caucase russe et en Anatolie ottomane. Et là, il y a dans ses écrits tardifs un véritable changement de tonalité, puisque dans ses livres publiés aux entours de 1870, « Mahometanism in the Levant and the Mahometan Revival », il insiste sur la stabilité de l'islam depuis ses origines, en dépit de la contamination des superstitions touraniennes et taxes sur Barbary. Surtout, il montre l'importance des variations de la pratique de la religion en fonction des milieux sociaux et de l'exposition aux idées européennes. Et il affirme, loin d'être sur le point de disparaître, comme certains le prétendent, l'islam connaît en fait un véritable renouveau, revival. On le voit au fait que la masse de la population musulmane rejette la conversion au christianisme, en dépit de la domination européenne, et que les populations africaines se convertissent à l'islam en grand nombre. Il note au début des années 1870 l'importance de la croyance en l'arrivée prochaine d'un Mahdi, en dépit du rejet par les wahhabites d'une telle idolâtrie. Il voit aussi combien le wahhabisme, ne serait-ce que par réaction, influence les autres tendances de l'islam. Il fait la comparaison avec les protestantistes du XVIe siècle qui, sans réussir à renverser le catholicisme, l'a conduit à se réformer profondément. Il parle d'or parce que c'était un ancien jésuite, même s'il doit être revenu au protestantisme à cette période. Les musulmans sont prêts à adopter les techniques européennes, mais restent profondément attachés à leur foi et à l'ordre social qui en fait partie, donc ça s'écrit des années 1870. On lui doit aussi un roman qui se passe dans l'Égypte mamelouk du XVIIIe siècle. Donc ces explorateurs déguisés en indigènes avaient beaucoup de mal à prendre des notes, parce que si vous êtes indigène, vous ne passez pas votre temps à noter ce que font les gens. Il était évidemment hors de question qu'ils puissent emporter avec eux des instruments scientifiques. Ils apportent donc une masse considérable d'informations sur les mœurs, les coutumes et les politique des pays visités, ce qui explique leur très grand succès d'édition, mais leur apport cartographique est très faible, parce qu'ils n'ont pas du tout les instruments. Ces voyages restent avant tout des itinéraires. À la fin des années 1860, l'intérieur de l'Asie, de l'Arabie et de l'Afrique reste encore extrêmement mal connu et non cartographié. Vous avez encore des terra incognita dans les planisphères de l'époque. Donc voilà ce que je voulais dire sur ces orientalistes et voyageurs, mais il faut bien comprendre que ces noms sont des vrais succès d'édition dans l'Europe du XIXe siècle et que leur influence dépasse très largement les gens qui fréquentent l'Orient ou qui sont impliqués dans la politique orientale. Ce sont des gens connus sur la scène littéraire et intellectuelle de leur temps. Là, maintenant, nous allons changer de sujet pour étudier ce qu'on peut appeler dans cette seconde moitié du XIXe siècle la modernité ottomane. Alors, en dépit des données recueillies à partir des sources fiscales, on ne dispose que d'estimations assez grossières de la population de l'Empire ottoman au milieu du XIXe siècle. Pour la période allant de 1844 à 1856, donc vous voyez, c'est déjà très vague comme créneau chronologique, on aurait un total de l'ordre de 35,4 millions d'habitants, dont 15 500 000 pour les Balkans, 10 700 000 pour l'Anatolie, 5 400 000 pour l'Asie arabe et 3 800 000 pour l'Afrique du Nord ottomane, en comptant Égypte, Libye et Tunisie. Ce qui montre bien ce dégradé de densité de population entre la péninsule balkanique, l'Anatolie et les provinces arabes. Les chiffres sont tout à fait nets de ce point de vue. Sur ces 35 millions, on aurait 21 millions de musulmans, soit 59%. Ce qui compte et qui va être essentiel pour la suite, c'est de se rappeler que si les musulmans sont minoritaires dans les Balkans, ils comptent quand même pour un peu plus du tiers de la population balkanique, qui représenterait 35% de la population des Balkans. Et leur nombre continue d'augmenter dans les Balkans, tout simplement par l'arrivée massive de réfugiés musulmans fuyant l'Empire russe, en particulier des Tcherkesses, des Circassiens, fuyant l'oppression russe et qui s'installent dans cette période dans les Balkans. Vous les retrouvez aussi en Anatolie, vous les retrouvez aussi en Syrie, ce qu'on appelle les Mouagirs, les émigrants, c'est-à-dire ces millions de musulmans qui fuient la Russie et qui s'installent dans l'espace ottoman au XIXe siècle. Les années 1860 constitue une étape essentielle dans le processus de modernisation et de recentralisation de l'Empire. La guerre de Crimée avait conduit à l'adoption rapide de l'invention la plus importante en termes de communication, on a déjà dit, le télégraphe électrique, puisqu'à la fin de la guerre de Crimée, Constantinople est reliée aux principales capitales européennes par télégraphe. Constantinople est ainsi reliée à l'Europe de l'Ouest en 1855 via Bucarest et Vienne. Les négociateurs ottomans au traité de Paris étaient ainsi en liaison quotidienne avec la capitale. La fameuse révolte des Sipahis en Inde, ce que les Anglais appellent la mutinerie, a fait sentir à Londres le besoin d'avoir une ligne de communication télégraphique directe avec l'Inde. Les Ottomans ont refusé que leur territoire asiatique soit ouvert à une compagnie étrangère, mais ont engagé des spécialistes britanniques pour construire cette ligne prioritaire. La liaison est établie entre la capitale ottomane et Bagdad en juin 1861. Elle est ensuite prolongée par le port de Fao, au port de Fao sur le Golfe, puis où elle fait jonction avec une ligne britannique allant jusqu'à l'Inde. Ainsi, la liaison télégraphique entre Londres et Bombay est réalisée en janvier 1865. On est maintenant dans le temps réel. Alors qu'avant, il fallait des semaines, voire des mois, pour qu'une information passe de l'Inde à l'Europe. À partir de la ligne asiatique, un branchement atteint la Syrie, puis l'Égypte et la péninsule arabique. L'ampleur du travail est remarquable. Pour l'ensemble de l'Empire, parties européennes comprises, il y a 6490 km de ligne en 1863, 13 750 km en 1866, 35 137 en 1869. Parallèlement, un câble sous-marin relie Alexandrie via Malte à l'Europe, ce qui permet ensuite la constitution d'une seconde ligne d'accès à l'Inde via Suez et la mer Rouge. Il faut bien comprendre. Dans les 1850-1870, c'est l'installation du télégraphe mondial. C'est quelque chose qui est encore plus important que l'arrivée de l'Internet à notre époque. Puisque là où le télégraphe arrive, c'est le temps réel. C'est-à-dire donc... On peut avoir entre Bombay et Londres plus que 2 ou 3 heures de décalage avec le système télégraphique et non pas des semaines. C'est un monopole d'État qui échappe à l'emprise des puissances européennes, contrairement à la poste, puisque les grandes puissances capitulaires disposent de leur propre réseau postal en dehors de tout contrôle ottoman. L'administration du télégraphe, qui fusionne avec celle de la poste, comme en système français, vous vous rappelez les PTT, poste et télégraphe, est une des branches les plus modernes de l'Empire ottoman. L'usage du français, première langue de communication à l'époque, est obligatoire, contrairement à l'anglais, sauf pour la ligne de communication avec l'Inde. L'arrivée du télégraphe implique l'arrivée la confrontation des temps. Puisque, vous savez, tant que le télégraphe n'existait pas et tant que le chemin de fer n'existait pas, il n'y avait pas la même heure entre Paris, Orléans, Lyon et Marseille, puisqu'on était en temps solaire. À partir du moment où vous avez du chemin de fer et du télégraphe, il a fallu créer des heures légales pour un ensemble de territoires qui a ensuite amené à la création des fuseaux horaires et finalement à la ligne de partage des dates, tout ça magistralement exprimé dans le roman de Jules Verne, Un tour du monde en 80 jours, puisqu'on joue sur les fuseaux horaires dans le roman de Jules Verne. Donc, en Orient, vous aurez la confrontation des temps. On continue à compter les heures à partir du coucher du soleil, selon les usages traditionnels, avec le rythme indiqué par les 5 frières, ce qu'on appelle à la turca. Mais on est forcé d'introduire le compte à la franca. Vous voyez cette caricature ottomane où les gens s'opposent pour la définition du temps à la turca, à la franca. Puisque à partir de 1860, on commence à universaliser le temps en s'appuyant comme point de repère sur le méridien de Greenwich, ce qui deviendra obligatoire en 1884. La tour de l'horloge, installée par le gouvernement, sera l'un des symboles de pouvoir de l'Empire ottoman finissant dans toutes les villes, dans toutes les capitales de province. L'autorité ottomane sera représentée par une tour de l'horloge qui marquera justement cette modernité ottomane et ce passage au temps universel à la Franca. L'Orient cesse d'être lointain. En 1825, il fallait de 5 à 8 mois pour transmettre un courrier de Londres à Calcutta par les bateaux à voile les plus modernes. Cela voulait dire que l'on devait compter environ 2 ans pour avoir une réponse à une question posée. Autrement dit, les gens sur le terrain avaient toute liberté de faire ce qu'ils voulaient. Maintenant, les informations arrivent en temps réel, dans l'heure qui suit. Donc, vous voyez la transformation gigantesque de la perception des espaces. Il en est de même à l'intérieur de l'Empire ottoman, où, brutalement, le temps devient identique entre la capitale et les provinces. L'information arrive tout de suite de Bagdad, de Damas, d'Alep, d'Erzurum à la capitale via le télégraphe. Et évidemment, vous ne pouvez pas recentraliser si vous n'avez pas le télégraphe. La même évolution se retrouve avec le chemin de fer. Les Ottomans donnent la priorité au réseau balkanique avec pour échéance la constitution des lignes directes avec l'Europe. Après bien des péripéties, la liaison sera complètement réalisée qu'en 1888. C'est le fameux Orient Express qui met Paris à 60 heures de Constantinople, et non plus des semaines comme auparavant. Et donc, au terminus de l'Orient Express, vous descendiez au Pera Palace à Constantinople, et puis ensuite, si vous traversiez en caïque ou en vapeur, comme on dit en Turquie, le Bosphore, pour aller envoyer la mer de Marmara, pour aller à Haydar Pacha, prendre la ligne de chemin de fer d'Asie. Dès les années 1860, on a un embryon de réseau anatolien, mais il n'y a rien dans les provinces arabes, à l'exception de l'Égypte. La ligne Alexandrie-Suez est terminée en 1858, dans le contexte de la révolte indienne. C'est-à-dire que les Anglais ont poussé d'urgence à la constitution des chemins de fer à Alexandrie-Suez parce que ça permettait de débarquer des troupes à Alexandrie, de les envoyer par chemin de fer à Suez et les rembarquer pour aller en Inde. On est maintenant en 40 jours de Londres à Bombay en 1858. Pour Londres, les progrès des communications ne sont pas toujours une bonne chose, car les nouveaux réseaux passent par des pays qui ne sont pas nécessairement considérés comme des amis fiables de la Grande-Bretagne. Certes, la ligne télégraphique Falmouth-Gibraltar-Malte-Alexandrie-Suez est contrôlée pendant cette grande partie par les Britanniques, mais reste que l'auberge égyptienne pose problème. À l'époque de Palmerston, quand il parlait de l'auberge, où il pouvait manger ses côtelettes, on avait le temps. Mais maintenant, l'itinéraire, c'est plus simplement la malle-poste, c'est le télégraphe. Et ça, ça change les choses, parce qu'une main hostile pourrait couper la ligne télégraphique. Et donc, Londres cesserait d'être en contact avec l'Inde. Alors bon, sans faire de projection, rappelons que à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, l'Angleterre doit contrôler plus de 80% du réseau télégraphique international, des câbles sous-marins, ce qui lui donne le contrôle de l'ensemble des communications télégraphiques mondiales. Donc, c'est strictement l'équivalent du contrôle américain aujourd'hui sur l'Internet. Si vous voulez, au moment de Fashoda, si la France entrait en guerre contre l'Empire britannique, Paris cesserait d'avoir le contact direct avec Hanoï et Saigon, parce que les Anglais auraient coupé immédiatement le télégraphe. Donc, vous voyez, ce télégraphe joue un rôle politique essentiel et devient un instrument de la puissance britannique. La création de la Compagnie universelle du canal de Suez par Ferdinand de Lesseps en 1858 a ainsi créé une grande inquiétude dans la diplomatie britannique qui a tenté vainement de s'opposer au percement de l'isthme par une société au capital franco-égyptien. On y voit le double danger d'une emprise croissante de la France sur l'Égypte et de ce contrôle de ce qui doit devenir la principale voie d'accès à l'Inde. C'était la hantise britannique, puisque, je vous rappelle, Bonaparte en Égypte, en 1798, il y est allé pour aller en Inde, hein, chasser les Britanniques. Donc les Anglais ont le souvenir de la menace française via l'Égypte sur l'Inde. Donc, la diplomatie britannique va tenter par tous les moyens possibles d'empêcher le percement de l'isthme, mais il n'y réussira pas, nous le verrons tout à l'heure, ou dans un autre cours. Et donc, le canal sera inauguré en 1869. Dès lors, dans les cercles dirigeants britanniques, on considère qu'il faut que l'Angleterre prenne le contrôle du canal. Et donc, pour prendre le contrôle du canal, il faut prendre le contrôle de l'Égypte. On n'y est pas encore, mais dès le début des années 1870, on commence à y réfléchir. Les réformes ottomanes sont aussi d'ordre intérieur. Le code foncier de 1858 a une optique de développement économique en favorisant l'enregistrement des terres afin de créer un marché foncier et en mettant fin à l'exploitation collective des terroirs jugés retardataires. Parce qu'il y avait des systèmes d'exploitation collective des terroirs sous forme d'assolement. Enfin, c'était un système assez compliqué. Les Ottomans veulent de la propriété privée parce que ça crée un marché de la terre et donc ça favorise les investissements, puisque ce sont ceux que les économistes européens leur ont expliqué. D'autant plus que la principale ressource de l'Empire est agraire, puisque du fait de capitulation, l'Empire ne peut pas imposer des droits de douane importants sur les produits manufacturés importés. Et donc, l'artisanat ottoman ne peut pas concurrencer l'industrie manufacturée européenne. Donc, ce qu'il faut faire, c'est investir dans les terres, surtout qu'il y a un marché sur les produits agricoles ottomans dans l'économie de l'Europe industrielle. Donc, ce que va conduire la loi de 1858, c'est à la constitution rapide d'une grande propriété foncière dans les différentes parties de l'Empire ottoman, puisque ce sont les puissants qui ont des capitaux, qui enregistrent les terres à leur nom et qui, en même temps, ont la puissance commerciale d'investir sur place dans les nouvelles terres pour ensuite lancer leurs produits sur le marché européen via les commerçants chrétiens. Ce qui va d'ailleurs paradoxalement stabiliser la situation sociale des provinces syriennes. Vous vous rappelez, les événements de 1860 avaient été liés à l'effondrement de l'économie urbaine devant l'arrivée des produits manufacturés européens. Tandis qu'avec le développement de la grande propriété foncière, il y a maintenant un partage des rôles. La propriété foncière est musulmane et ce sont les commerçants chrétiens qui font le commerce des produits de l'agriculture musulmane vers le marché européen. Donc il y a partage des rôles et rééquilibrage économique entre chrétiens et musulmans, compte tenu que vous avez un vaste marché européen, puisque à cette époque-là, le Proche-Orient étant sous-peuplé, c'est une zone qui exporte des produits agricoles vers l'économie européenne. La loi sur les vilayettes de 1864 adopte un système proche du... du système français, c'est-à-dire qu'en fait, on fait un décalque, hein, soyons clairs. Le préfet, le vilayet, c'est le département, c'est pas les noms, c'est pas marqué. Vilayet, wilaya en arabe, c'est le département. Le wali, c'est le préfet. Le kaïm makam, c'est le sous-préfet. Les Ottomans emportent ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire l'administration française napoléonienne, avec la distinction très rapide entre les ordres civils, militaires et juridiques. Ils font la séparation des pouvoirs, selon le système préfet. Le wali cesse d'avoir le commandement des troupes de la province, qui est donné à un officier de carrière qui est distinct du gouverneur, et les juges sont indépendants du wali et des militaires. Ce qui va ensuite permettre à l'autorité ottomane de dire vertueusement que quand au consul de France ou d'Angleterre qu'il existe telle chose, le wali dit « mais je ne peux pas ». Le juge a dit « et moi, je n'ai pas le pouvoir de changer une décision de justice ». C'est ce que vous avez appris, les Européens. Et alors, donc, les Européens sont très énervés parce qu'ils souhaiteraient le maintien d'un despotisme ottoman qui ferait obéir les gouverneurs aux ordres des consuls. Mais maintenant qu'ils ont un système avec séparation des pouvoirs, ils ne peuvent pas suivre les ordres du consul. C'est le renvoi de l'image. Ça donne dans les archives des textes absolument savoureux où les Ottomans se font les défenseurs de la séparation des pouvoirs et les consuls, les défenseurs du despotisme administratif. Ah. Les réformateurs ont conscience du retard pris dans le domaine de l'éducation moderne et du rôle hégémonique qu'ont acquis les écoles missionnaires. Ils dressent un vaste programme de constitution d'un réseau scolaire moderne, articulé entre écoles préparatoires, les anciennes écoles dites coraniques, les écoles intermédiaires et les écoles supérieures. Chaque vilayet, donc département, doit se doter d'une direction de l'enseignement. Ce vaste programme énoncé en 1869 ne commencera à être mis en application que 10 ans plus tard et ne sera achevé qu'à la fin du siècle. L'effort est considérable, même si on est très loin encore, d'une scolarisation de la totalité de la population musulmane masculine. On ne parle pas de la scolarisation de la population féminine. Les non-musulmans, eux, conservent leur réseau privé confessionnel. Néanmoins, les écoles supérieures, dites rushdiyées, vont progressivement exercer une forte concurrence aux écoles missionnaires dans la formation des élites. En fait, souvent, les stratégies familiales seront de panacher les formations afin que les enfants puissent disposer à la fois d'une bonne connaissance du français et de l'ottoman. Donc, les enfants seront envoyés quelques années dans les écoles missionnaires francophones et puis ensuite quelques années dans les écoles d'État où on enseigne en arabe et en ottoman, de telle façon que les gens sortent avec la connaissance linguistique parfaite des deux langues. Alors, il est à noter que ce nouveau système nouveau, au fin du XIXe siècle, comporte un embryon d'enseignement féminin, mais simplement un embryon. Il faut rappeler que ceux qui introduisent l'enseignement féminin en terre d'islam, ce sont les bonnes sœurs catholiques. Et que les premières écoles de filles sont tenues par les congréganistes catholiques, ce qui donne toute garantie de moralité aux familles musulmanes. Puisque les bonnes sœurs, là, on est sûr de leur moralité. J'ai une amie dont le père était communiste chiite au Liban, et son grand acte de progressiste était d'envoyer sa fille à l'école catholique. Ce qui a déjà été énorme comme progressisme dans les années 1960. Donc, en dépit de nombreuses déficiences dues au manque de cadres, cet enseignement moderne d'État va permettre au début du XXe siècle l'émergence d'une classe moyenne musulmane éduquée en concurrence avec les non-musulmans des écoles confessionnelles. Alors la grande différence entre chrétiens et musulmans et juifs dans cette période, c'est qu'il existe déjà un enseignement féminin relativement important dans les écoles catholiques et un peu moins dans les écoles de l'Alliance israélite universelle, alors qu'il n'y en a pratiquement pas dans la population musulmane. Donc vous avez des taux d'alphabétisation féminin déjà relativement élevés dans les populations non musulmanes, alors que l'analphabétisme féminin est très élevé, ce qui va poser un énorme problème dans les couples, puisque ce qui sera très spécifique de la situation de la fin du 19e siècle et des premières décennies du 20e siècle, c'est d'avoir un homme musulman alphabétisé ayant un niveau d'éducation primaire voire secondaire qui est marié avec une femme analphabète. Et ce qui pose des tensions, des divisions. La première femme de sa date était analphabète. Donc ça explique ensuite la demande qui se crée rapidement dans la classe moyenne et supérieure des sociétés musulmanes d'Asie de créer de l'enseignement féminin pour que les maris aient des femmes avec qui ils puissent discuter, en quelque sorte. Donc ce sont ces mécanismes qui introduisent ensuite progressivement l'enseignement féminin. Pour mémoire, aujourd'hui c'est l'inverse, hein. Le taux d'éducation des populations féminines dans l'islam arabe est supérieur au taux d'éducation des populations masculines. Phénomène que l'on retrouve aussi en Europe et en Amérique du Nord. Donc ça, c'était le passage, parce qu'on me reprocherait de ne pas faire d'études de genre. Donc je fais quand même un passage d'études de genre, au moins en but témoin. En tout cas, dans cet enseignement, question de l'enseignement, on trouve l'ambiguïté complète du processus de modernisation. La création d'un enseignement d'État, loin de renforcer la cohésion de la société en inculquant la vision commune que présuppose un projet national, accentue au contraire la différence confessionnelle qui prend aussi une dimension ethnique et linguistique en dehors des provinces arabes. C'est-à-dire qu'en gros, et c'est encore valable dans des pays comme le Liban, les musulmans sont dans l'enseignement d'État, les chrétiens dans l'enseignement privé. Et donc, essayer de faire une nation avec ça, ça rend les choses nettement plus difficiles. Alors là, on est encore en population arabe des deux côtés. Mais en Anatolie, c'est pire. Les musulmans turcs sont dans l'enseignement d'État, tandis que les Grecs, les Arméniens sont dans l'école privée. Et donc, les mécanismes de cohabitation ne fonctionnent plus. Et c'est le paradoxe de la modernisation. En France, les pères fondateurs de la République, ils ont supprimé l'école privée pendant un moment, en tout cas au niveau de l'enseignement secondaire, pour qu'il n'y ait pas deux France. Hein, il faut le rappeler. Les lois de Ferré de 1880. Les Tanzimats, il sera l'occasion de revenir ensuite plus tard dans un autre cours sur cette question, sont aussi une vaste entreprise de codification allant dans le sens d'établissement d'un état de droit. Ainsi, la loi islamique se trouve réunie pour la première fois en un code défini par l'État. La fameuse Mejelle que vous avez ici, là, dans la graphie turque moderne, la Mejelle, publiée de 1870 à 1877 en turc, et non en arabe, ce qui est extraordinaire, puisque normalement la loi islamique était écrite en arabe. Or, sa première codification est faite en turc. Il en est de même pour les activités modernes de l'État, comme les codes de commerce ou de droit administratif, ce qui implique que l'État produise ses propres tribunaux, ce qu'on appelle les tribunaux nizami, qui sont organisés sur le modèle européen, avec trois niveaux, première instance, appel et cassation. Autrement dit, tout l'ancien système islamique des tribunaux islamiques se réduit progressivement à fur et à mesure que progressent l'État moderne et les systèmes d'administration européens. Mais qui dit établissement d'un droit et de tribunaux d'État implique d'une part la formation de facultés de droit pour enseigner et former les avocats et les juges, et d'autre part le déclin des spécialistes en religion, des ulamas, qui cessent progressivement d'avoir des débouchés dans les professions judiciaires, puisque leur formation ne leur permet pas d'accéder aux tribunaux modernes. Cela dit, il est évident que dans la période de transition, les premiers juges sont recrutés chez les ulamas. Donc la question semble moins être une opposition entre islam et sécularisation, parce que ces droits nouveaux sont largement inspirés de la loi islamique, qu'une relation complexe entre le légicentrisme des réformes, des grands codes, lois, etc., qui sont les systèmes des réformes, et l'élargissement continu des compétences de l'État. Les religions anciennes, enfin, dans les anciens régimes, les religions étaient largement des faits de société civile. Alors, en France, l'Église catholique, elle vivait de ses financements, de ses biens du clergé. À partir du moment où la Révolution française a confisqué les biens du clergé, l'Église catholique est entrée en dépendance de l'État sous le Concordat. Et elle la reste encore largement aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on croit de la loi de séparation. C'est la même chose en islam. Par le bien des waqf, des biens de main morte, les activités religieuses étaient financées par la société civile. Or, de plus en plus, l'État prend le contrôle des biens de main morte et gère ses biens. C'est-à-dire que l'État étend ses compétences au détriment de la société civile. Ce mécanisme qui continue jusqu'à aujourd'hui. De plus, l'édit d'émancipation de 1856, je le rappelle, a consacré la différence de statut personnel en droit familial, ce qui fait qu'en matière de droit familial, chaque religion a ses propres tribunaux. Et bien des non-musulmans jouent aussi sur les protections consulaires pour échapper aux tribunaux ottomans en passant par la justice consulaire ou mixte. Alors, il faut toujours se méfier des historiens parce qu'on avait toujours une vision dans laquelle les musulmans et les non-musulmans vivaient de façon séparée depuis des siècles. Et puis quand les historiens ont commencé à ouvrir les archives des tribunaux musulmans, ils se sont aperçus que les non-musulmans, et ceci à toute époque, on a des archives aussi bien au XVIe siècle qu'au début du XIXe siècle, les non-musulmans allaient largement porter leurs affaires au tribunal musulman, y compris des affaires opposant des chrétiens entre eux ou des juifs entre eux. Ils préféraient saisir le tribunal musulman que le tribunal de leur communauté religieuse. Et ce qui montre qu'avant 1800, la mixité religieuse était beaucoup plus grande qu'on ne la pensait. Inversement, la modernisation accroît la séparation des communautés, y compris en matière juridique. Bien entendu, la modernité s'exprime surtout dans les grands centres urbains de la façade méditerranéenne. C'est là où on se dispute pour savoir si on est à la Franca ou à la Turca. Plus on s'éloigne des grands centres, plus l'autorité de l'État faiblit par rapport aux pouvoirs locaux qui ont souvent une forme tribale. Et il faut bien être clair que quand on se retrouve au fond de l'Anatolie, on est plutôt dans une situation de type colonial où l'autorité de l'État gouverne plus de façon indirecte en jouant sur les chefs locaux que sous forme d'administration directe. Mais c'est ce que font les Français et les Anglais dans leurs empires coloniaux respectifs. Hein, ça n'a rien de nouveau. Et de toute façon, les historiens qui étudient aujourd'hui les phénomènes d'empire ont montré que les empires, c'est évidemment la force, mais que les empires, c'était largement la négociation. Et que les provinces les plus éloignées du centre, le pouvoir négociait plus qu'il n'imposait son autorité. Et ceci est valable pour l'Empire ottoman, comme pour les empires coloniaux, et ainsi de suite. Alors, passons maintenant à l'Égypte, toujours sur la formule fondamentale. Là. Est-ce que l'Égypte est une auberge moderne ? Cette phrase de Palmerston qui me hante. En effet, l'Égypte est l'auberge de Palmerston, mais elle apparaît pour les contemporains comme à la pointe de la modernité en terre d'islam. Il est vrai que l'héritage de Muhammad Ali est impressionnant. L'extension continue de la culture du coton a complètement intégré le pays dans l'économie de l'Europe de la révolution industrielle. Surtout, l'Égypte s'est dotée d'un puissant État moderne qui ne se limite plus à lever des impôts et aux maintiens relatifs de l'ordre public. Des institutions modernes ont été établies, en particulier dans les domaines éducatifs et médicaux. Une nouvelle culture fondée sur l'usage de l'imprimé a commencé à se diffuser. En revanche, on ne peut pas parler, contrairement à ce qu'on a écrit beaucoup, d'une révolution industrielle avortée. Les manufactures établies à l'époque du premier vice-roi servaient essentiellement à l'effort de guerre et étaient soumises à une terrible discipline militaire. Elles ont disparu avec la réduction drastique des dépenses militaires après 1841. Et les investissements économiques se sont orientés vers l'agriculture, secteur de beaucoup plus haut rendement. On a pu dire que l'œuvre entreprise par Muhammad Ali a été d'utiliser les instruments de la modernité européenne pour reconstituer un pouvoir absolu et autocratique de type traditionnel. La composition sociale du pays s'est transformée. Une nouvelle classe dirigeante turcophone, liée étroitement au pouvoir vice-royal, compose à la fois les strates supérieures de la bureaucratie et tend à se transformer en aristocratie de grands propriétaires. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué les fois précédentes, l'année dernière, le pouvoir réside dans la maison du vice-roi, la bête. Normalement, avant l'édit de Gulané, les gens de la bête ne peuvent pas voir leurs enfants leur succéder dans les fonctions de pouvoir, aussi bien dans l'Empire ottoman qu'en Égypte. Maintenant, c'est fini. Ce qui se passe au début de la seconde moitié du XIXe siècle, c'est qu'on arrive à la seconde génération. C'est-à-dire que les gens qui ont accédé aux fonctions d'autorité et de pouvoir, qui sont turcophones, autour du vice-roi, ben, voient maintenant leurs enfants accéder à ces mêmes fonctions. Donc, on voit l'émergence de phénomènes totalement inattendu dans l'histoire de l'islam, une aristocratie de fonction, puisque par définition, la société islamique ottomane était une société non aristocratique. Les bédouins ont été systématiquement réprimés, permettant ainsi l'extension de la surface cultivée. Mais le prix à payer a été très lourd pour la masse de la population composée de paysans, les fameux fallahs. Le poids des corvées de la conscription a été pratiquement intolérable. on peut parler d'un véritable processus de brutalisation de la société égyptienne à l'époque du premier vice-roi, ce qui a introduit une distance considérable entre un côté un appareil d'État et de l'autre côté, et avec la classe dirigeante, et de l'autre les classes populaires, qui ressentent plus la modernisation comme une oppression plus que comme un projet collectif. Donc, le premier successeur, c'est Abbas Pacha, 1848-1854, dont vous avez la photographie, là. Il faut comprendre l'arbre généalogique de la famille. À l'époque, vous n'avez pas, c'est un grand problème des dynasties musulmanes du 19e siècle, de primogéniture. C'est le plus ancien dans la famille qui doit accéder au trône. Dans le cas précis, après la mort d'Ibrahim Pacha, du vivant de son père, ça ne peut être donc Abbas Helmi, premier, 1848-1854, qui est le petit-fils de Muhammad Ali. Il court-circuite donc à ce moment-là les frères, enfin des gens qui sont dans l'arbre généalogique avant lui. Il y a d'autres fils de Mehmet Ali. Lui, il est petit-fils de Mehmet Ali, mais accède au trône alors qu'il y a des fils de Mehmet Ali qui sont encore présents. Ce n'est pas le système saoudien. Abbas Pacha consolide l'œuvre de son grand-père en inaugurant la succession dynastique tout en modifiant le style des réformes en cours. La succession a lieu dans l'ordre de seigneurité, donc le plus ancien des descendants. On abandonne la politique des monopoles économiques en faveur d'une évolution inexorable vers la consécration de la propriété privée des terres, mais ce n'est qu'un changement de méthode pour le contrôle du pays. Le vice-roi est maintenant le premier propriétaire du pays. Et l'essentiel du pouvoir réside toujours dans les hommes de la maison du vice-roi. Mais maintenant, comme je l'ai dit, dans cette maison du vice-roi, on est à la seconde génération. La langue première de la maison du vice-roi est le turc ottoman, ce qui ne veut pas du tout dire que ce sont des gens d'origine turque. Et la culture est largement la même que celle des hommes de gouvernement dans le reste de l'Empire ottoman, d'où une possibilité de circulation. Vous pouvez être élevé dans la bait du vice-roi et partir prendre des fonctions ailleurs dans l'Empire ottoman. On appelle ces hommes de distinction et de dignité. Zawat al-Kiram en arabe, Zevat al-Kiram en turc. Donc ces hommes de distinction et de dignité. Le nouveau vice-roi adopte un cérémonial de gouvernement pratiquement royal et restaure à son profit exclusif un entourage de mamelouks. Il est le seul maintenant à avoir le droit d'avoir des mamelouks, c'est-à-dire des esclaves qui accèdent à des positions de commandement. Il se montre particulièrement loyal envers le pouvoir ottoman et envoie 20 000 soldats se battre dans la guerre de Crimée. L'armée égyptienne se montrera fidèle aux traditions de l'époque d'Ibrahim Pacha et aura un excellent comportement au feu. Ça permet à Abbas Pacha de travailler à la consolidation de l'autonomie de l'Égypte. C'est là donc tout le sentiment étrange de ce milieu du siècle en Égypte. L'élite se sent profondément ottomane de culture, mais elle se sent en même temps de plus en plus d'Égypte. Elle méprise les Égyptiens, mais elle se sent d'Égypte. Et se sentant d'Égypte, elle commence à se séparer du reste de l'élite gouvernementale ottomane, même si on peut encore faire carrière à côté dans l'Empire. Cela d'autant plus que, à côté des gens de la Belt, le pouvoir de la dynastie s'appuie sur les notables ruraux qui accèdent maintenant à un certain nombre de fonctions d'autorité. Là, ce sont donc des fellahs, des Égyptiens. Et ça d'autant plus que Abbas Pacha chasse un grand nombre d'Européens des fonctions qu'ils avaient acquises sous Mohammad Ali et Ibrahim. Les 6 années de gouvernement du second vice-roi constituent une période de récupération pour la population après les terribles épreuves de la première moitié du siècle. La pression fiscale diminue, il n'y a plus de grandes aventures militaires coûteuses en hommes. La modernisation se poursuit, mais sans prendre les formes provocatrices d'une européanisation. Ça vaut évidemment l'hostilité des Européens installés en Égypte, qui accusent le vice-roi d'exprimer une réaction musulmane. C'est le cas en particulier des Français, qui lui reprochent de s'être rapproché des Britanniques en favorisant la constitution des premiers chemins de fer avec l'ouverture de la ligne de communication Alexandrie-Suez, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. De même, le règne inaugure la rivalité pour le pouvoir entre le vice-roi et l'élite gouvernementale. Pour maintenir son autorité, parce qu'il faut bien comprendre, l'élite, elle contrôle la propriété foncière largement. Donc l'élite, c'est le moyen pour le vice-roi, qui est lui-même un grand propriétaire, de contrôler l'Égypte. Mais ça implique pour le vice-roi de contrôler cette élite. Tandis qu'elle, l'élite, elle cherche plutôt à prendre des distances par rapport au vice-roi. Donc, régulièrement, le vice-roi accorde des propriétés puis les retire aux gens de l'élite simplement pour marquer qui est le maître. Et c'est évidemment, ça crée une puissante hostilité, un climat trouble qui va amener à la mort dans des circonstances jamais élucidées de Abbas Pacha en 1854, à un moment où il commençait à travailler à essayer d'établir une primogéniture dans la dynastie. Le troisième de la dynastie, c'est Saïd Pacha, 1854-1863. Donc Saïd, c'est... J'essaie de retrouver Saïd. Oui, voilà, c'est un fils de Mohammad Ali. Vous voyez sur l'arbre généalogique. Il apparaît plus faible de caractère aussi bien envers les Français qu'envers l'élite. Vous voyez tous qu'ils ont maintenant la redingote ottomane, le tarbouche, qui est l'instrument, enfin le symbole de la modernité, et qui, contrairement au chapeau ancien, est un chapeau qui est attribué aussi bien aux musulmans qu'aux non-musulmans. Donc c'est un signe d'uniformisation confessionnelle, le tarbouche, ou le fez, comme vous voulez. Saïd est le premier de la dynastie avoir une vraie culture européenne. Il parle couramment le français, l'anglais, le turc et le persan. C'est dans son règne qu'il a adopté le code foncier ottoman de 1858 et c'est lui qui va prendre la décision fatidique pour l'histoire de l'Égypte d'accorder à Ferdinand de Lesseps la concession de la compagnie universelle du canal de Suez. Il s'engage fortement dans le dossier en finançant une partie du projet et en résistant aux efforts conjugués de la Porte ottomane et de la Grande-Bretagne pour mettre fin au projet de percement de l'isthme de Suez. Les travaux préparatoires commencent en 1859. 20 000 travailleurs égyptiens venus essentiellement par le biais de la corvée, ce qui va peser lourd dans la suite des événements, sont utilisés en permanence. Mais 20 000 en corvée, ça veut dire que vous en avez des milliers qui partent pour rejoindre le canal de Suez et d'autres milliers qui repartent du canal de Suez pour revenir à leur champ. Donc la ponction sur la paysannerie égyptienne est tout à fait considérable. Le règne de Saïd voit aussi un afflux considérable d'Européens, dont une part profite abusivement des capitulations pour exiger, avec le soutien de leurs consuls, de forts dédommagements pour chaque cas d'affaires litigieuses. Alors, on a un document extraordinaire dans cette période en français qui sont les mémoires de Nubar Pacha, qui a été un homme essentiel dans la politique égyptienne entre 1840 et 1890 et qui a écrit ses mémoires en français, ce qui, pour nous, est non négligeable. Dans cette période, donc Nubar, qui est un Arménien, mais membre de la Beit, hein, c'est un de la seconde génération. Son oncle, pas son père, mais son oncle, était déjà un agent de Mehmet Ali, donc lui, logiquement, c'est un Arménien de la seconde génération de la Beit du Vice-Roi. Donc, dans ses mémoires, il décrit la situation des Européens sous le règne de Saïd, je cite ce passage. Les Européens se groupaient par nationalité autour de leurs consuls. Ceux qui ne pouvaient approcher le vice-roi s'adressaient naturellement à leurs représentants pour les faire intercéder en leur faveur. Ceux qui ne pouvaient l'approcher se prévalaient en outre de la faveur personnelle dont ils jouissaient, du plus ou moins d'intimité qui pouvait exister entre eux et leurs consuls pour se faire valoir et obtenir la commande d'articles à fournir. Dans ces conditions, une faveur accordée à telle ou telle autre personne était ordinairement attribuée à l'influence de son consul. Elle amenait d'autres demandes et l'intervention d'un autre consul qui ne voulait pas paraître avoir moins d'influence que son collègue. On demandait, on réclamait au besoin comme chose due une commande de même importance que celle octroyée à un autre. S'il n'y avait rien à commander, qu'importe, on réclamait une faveur, on inventait des affaires et le vice-roi cédait. Donc, il y a cette pression accrue des consuls et des colonies européennes sur l'économie de l'Égypte. C'est vraiment à l'époque de Saïd que se constituent les communautés étrangères, dont une partie est constituée par des Européens du Sud, Italiens, Grecs, Maltais, les Maltais étant sujets britanniques, puisque Malte est une colonie britannique. Et d'autre part, par des Ottomans venus d'autres parties de l'Empire, des Arméniens, des Syro-Libanais, ce qu'on appelle les Shawam, puisque le pluriel de Sham, c'est Shawam. Ces immigrés, souvent pauvres à l'origine, sont tout aussi bien des travailleurs que des commerçants. Nombreux sont ceux qui pratiquent l'usure au détriment des paysans égyptiens. La croissance continue des communautés étrangères favorise la pénétration des intérêts extérieurs. Plus les consuls ont de protégés, plus ils ont les moyens d'exercer leur influence dans l'appareil d'État et dans l'économie. Il en est de même pour les finances. Aussi bien pour assurer les dépenses courantes que les grands projets comme le canal de Suez et les travaux d'irrigation, l'État égyptien commence à avoir recours aux emprunts étrangers, d'abord sous forme de bons du trésor, puis en levant directement des emprunts auprès des banques européennes. En 1863, l'Égypte a déjà un endettement extérieur de l'ordre de 6 millions de livres sterling. Déjà, sa signature n'apparaît pas de très bonne qualité, d'où des taux relativement élevés, ainsi que des coûts considérables de commissions au profit d'intermédiaires divers, c'est-à-dire... En gros, si l'Égypte lève un emprunt d'un million de francs sur la Bourse de Paris, elle en touche 600 ou 700 000. Les 300 000 autres passent dans les différents intermédiaires et le résultat, c'est que l'Égypte, un jour, doit repayer un million, avec en plus les taux d'intérêt. Donc, c'est là où l'Égypte, comme l'Empire ottoman d'ailleurs, mais pour d'autres raisons, l'Égypte plus pour les travaux de modernisation et l'Empire ottoman ne serait-ce que pour payer le coût de la guerre de Crimée, entre dans le cycle vicieux de l'endettement qui va amener, comme pour la Tunisie, l'effondrement des États islamiques ou en tout cas leur dépendance accrue envers la puissance européenne. Donc nous allons terminer là pour aujourd'hui et donc la semaine prochaine, comme il se doit, parce qu'il n'y a même pas, comme, contrairement aux années précédentes, il n'y a pas de grand feuilleton haletant avec des tas d'événements et de rebondissements